trop riche peut-être pour conseil, pour conseil.
Pour un poète. L'art poétique, à la fin du XXe siècle d'ailleurs, donc la fin du siècle heideggerien d'une certaine façon, a cédé la place à la science poétique. À la fin du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, nous avons vu déferler l'irruption de la science, des sciences humaines, parmi lesquelles l'une des plus brillantes a été la linguistique. Et la linguistique, d'une certaine façon, dédramatiser cette opposition entre répudiation et sacralisation. Elle l'a dédramatisée au nom de l'objectivité scientifique. Et le poème, à ce moment-là, est devenu un objet scientifique, un objet linguistique. On a vu les poètes se transformer eux-mêmes en linguistes. Vous vous souvenez des débats assez homériques entre d'un côté Henri Méchonic qui s'appuyait sur Benveniste et de l'autre côté Jacques Roubaud qui s'appuyait sur Noam Chomsky. Et donc là, vous aviez un conflit de poètes linguistes. Quel a été le résultat de cette objectivation scientifique du poème, de la poésie? Eh bien, ça a été de faire rentrer la poésie dans la littérature, de lui taper un petit coup sur la tête et dire « Écoutez, vous, poète, vous n'êtes pas supérieur, vous n'êtes pas au-dessus de la littérature. » Et donc, après tout, un poème est un texte comme un autre. Un texte comme un autre. Mais on est passé à un textualisme qui a été revendiqué par les poètes, même sous forme carnavalesque. Petite parenthèse, des gens comme Christian Prigent, Jean-Pierre Verheyen. Je ferme la parenthèse. Et donc, la poésie est rentrée dans le rang. Je ne crois pas qu'elle en soit sortie. D'une certaine façon, il faut voir comme par exemple la Maison de la Poésie s'appelle désormais Maison de la Poésie et de la Littérature, où on n'y entend plus beaucoup la poésie. Et d'une certaine manière, il y a eu une sorte d'égalisation, de prosaïsation de la poésie.
Oui.
Et lorsque Stéphane Mallarmé, le contemporain de Verlaine, disait déjà dans « Crise du vers », qui est un texte essentiel pour comprendre la modernité, me semble-t-il, « Il y a vers, disait-il, il y a vers, sitôt que s'accentue la langue. » Mais d'une certaine façon, on a pu lire cela de manière très généralisée et dire, eh bien, oui, tout texte en prose, toute phrase de prose, il y a des poétiques de la prose, a d'une certaine façon une accentuation. Donc, la poésie, ça n'est pas autre chose que la prose. Et nous avons eu affaire à une certaine prosaïsation de la poésie,
oui,
contre laquelle, naturellement, des gens comme Jacques Roubaud ont, à mon sens, très légitimement protesté, si d'une façon trop mutique et en quelque sorte à leur corps défendant, rentrant dans la position heideggerienne, disant d'une certaine manière, la poésie, on ne peut rien en dire, surtout pas le poète, et donc il y a une forme de sacralisation roubaudienne, d'une certaine manière, du poème.
Oui.
Donc nous sommes dans une, je termine là, la première partie du moins, nous sommes dans une sorte de paradoxe où, justement, nous essayons de penser le poème parce que, précisément, la poésie a disparu du champ, en quelque sorte, pas au marché de la poésie, bien évidemment, mais du champ de la réflexion. C'est... Et donc, on pourra venir à ça, oui, dans une deuxième partie.
Voilà. La véhémence productive, affirmative et merveilleuse de Jacques d'Arras, elle est évidemment envoûtante. Et on ne peut que la partager. Et en même temps, que de transgressions par rapport à votre merveilleux panorama. Moi, j'ai envie de dire, pardon, je reviens avec les miens, j'abaisse selon les poètes de l'éphémère, du Boucher, du Pain, on pourrait continuer la liste, voilà. Et je vois Michel Collot qui n'est pas loin, on pourrait continuer à donner d'autres noms comme ça. Ils sont tous très transgressifs par rapport à cette normalisation que vous venez de dénoncer, parfaitement à juste titre. Donc si on essaie de se resituer, on a ouvert le champ très grand et vous nous avez permis, Jacques d'Arras, de l'ouvrir très grand. On avait d'un côté la pensée qui se perd comme savoir, et j'avais aussi fait allusion à un non-savoir, et vous, vous avez ouvert un autre champ du côté des poètes qui pensent le poème. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un hors-champ, comme diraient les cinéastes, qui permettrait d'ouvrir ailleurs la pensée et d'ouvrir ailleurs le poème? Aurélie Foglia, Jacques Larras, je vous ai interrogé, donc si vous voulez, mais sinon Aurélie Foglia, parce que vous étiez parti sur l'expérimental et la langue, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de la question dont on débattait.
Juste pour rebondir sur ce que disait Jacques Larras, en vous écoutant, ça me faisait rêver à l'étymologie du mot poésie, en fait. Ou même pendant le romantisme allemand, tout est poésie. En fait, ils appellent poème tout type de production littéraire. On est vraiment dans le poyen, le créer, en voilà. fait. Et on entend cette acception très large du mot, très englobante, qui fait que finalement, on n'est pas dans une spécificité générique trop étroite, loin de là. Donc j'aime bien cette ouverture du mot poésie qui, justement, permet de penser large. C'est un peu la deuxième partie, c'est ça, du tour de table. Donc peut-être que je voulais en venir justement sur la question du rapport à la langue et évoquer Rimbaud d'abord. De Rimbaud avec l'un des plus beaux poèmes, un des plus marquants pour moi, qui s'appelle « Sensation », où vous trouvez ce vers incroyable. Vous savez, l'enfant donc est parti par les soirs bleus d'été. Il sent l'herbe menue lui picoter les pieds, le vent baigner sa tête. Et dit « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien ». Et ce vers, pour moi, il est énigmatique. C'est une sorte de mantra qui me revient. Il est livré à une pure extériorité. Et voilà, c'est une sorte de cogito sensible où on n'a plus besoin de penser pour être. Vraiment, on est au-delà de toute forme d'intellectualisation dans un pur rapport à l'être. Et j'adore ce poème. Et... Dans un inédit, donc dans le livre de poésie qui va paraître aux éditions Cortine, qui s'intitule Lyrisme, j'ai intitulé une des parties Faire sensation. Et c'est un petit clin d'œil à Rimbaud, bien sûr, mais aussi donc l'idée que la poésie fait sensation. Alors évidemment, ça peut être un petit effet ironique, parce que la poésie, bon, sachant qu'elle est très confidentielle, quand elle paraît, elle fait plutôt plouf que sensation.
Peut être sensationnel.
Mais c'était plutôt l'idée de montrer que la poésie, elle est tournée du côté de la sensation. Et c'est vrai que dans un livre antérieur, je parlais de faire avec les moyens du corps. Je pense que c'est important, faire avec les moyens du corps. Et récemment, en travaillant sur Emily Dickinson, pour un recueil d'articles, je crois que c'est pour la revue Europe, c'est dirigé par Pierre Winkler, je suis tombée sur une citation d'un critique qui m'a vraiment beaucoup apporté, où il dit d'Emily Dickinson qu'elle perçoit l'abstraction et pense la sensation. Donc il a croisé les termes, hein. Elle perçoit l'abstraction et pense la sensation. Voilà, c'est magnifique évidemment, parce qu'on a une forme de complémentarité et en même temps de perturbation générale des rapports traditionnels entre la sensation et la pensée. Donc ça m'a vraiment retenue. Et justement, il faut voir comment ça s'articule. Sensation et pensée, peut-être justement pour évacuer la pensée ou pas, et je pense qu'elle n'est pas du tout évacuée dans l'idée justement de penser de tout son corps. Donc je voudrais revenir là-dessus, parce que évidemment, quand on écrit, quand on pense, c'est toujours avec la langue. Et la langue, elle a quelque chose d'irréductible, et donc il faut faire avec ce matériau. Donc il y a deux niveaux de sensorialité qui sont engagés, en fait. La sensorialité immédiate, qui est notre rapport au monde, et une sensorialité seconde, qui est notre rapport aux mots, qui est notre rapport donc à ce matériau verbal qui est chantant, qui est allitératif, et qui va provoquer des sensations qui ne sont pas les sensations du réel. Donc là, ça c'est quand même un point intéressant, ces deux niveaux de sensorialité engagés par l'écriture de poésie. Et puis, l'idée donc que dans la langue, ce qui se joue, c'est toujours ce déchirement dont parlait Maria Zambrano, que je citais tout à l'heure. Déchirement entre le sensible et l'abstraction. Parce que justement, dès qu'on nomme quelque chose, et vous disiez bien que la poésie, c'était nommer, que ce soit un geste sacré ou non, c'est vrai qu'il y a quelque chose toujours de sacral dans le fait de nommer. On est toujours dans la genèse des choses. Hein. Le geste de la genèse, c'est bien de nommer pour faire exister. Et donc le nom décolle la chose de sa matérialité. Et Et en fait, si j'en suis venue à la peinture, c'était justement pour me passer des mots. Dans Comment dépeindre, donc c'est un livre de poésie qui fait dialoguer poésie et peinture. Et donc il y a un titre qui dit « Peindre avec la langue ». Ça m'amuse parce que quand j'ai dit mon titre à mes filles qui étaient plus petites à l'époque, elles m'ont dit « Bock, mais c'est dégoûtant !» Et j'ai dit « Non, non, peindre avec la langue, évidemment, pas la langue dans la bouche. Peindre avec la langue des mots. » Donc peindre avec la langue, c'est-à-dire quelque chose qui irait contre la médiation obligée entre le réel et la poésie. Donc il y avait cette idée d'une langue tactile, qui serait donc, autrement dit encore, une langue manuelle, qui penserait par les mains. Donc vous voyez que ce serait une façon de court-circuiter la langue. Et en même temps, on y revient toujours. Et c'est vrai que comment dépeindre, c'est une sorte de journal d'atelier qui accompagne le geste de la peinture. Donc j'étais vraiment dans cette interrogation constante de ce qui se joue dans le langage et dans la peinture, avec l'idée de se passer des mots sans s'en passer, oui. Hein, pour justement être dans cette, au plus près du réel, en fait. Mettre la main... au réel, au monde.
D'un mot, pour nommer les choses et essayer peut-être comme ça de préciser, est-ce que vous parleriez d'une pensée sensible ou d'une pensée tactile ? Vous parliez d'une langue tactile, est-ce qu'on peut parler ici par rapport à une pensée intelligible, si on reprend des oppositions canoniques de la métaphysique, est-ce que vous accepteriez de dire que le poème... tel que vous le pratiquez, tel que vous l'expérimentez, tel que vous le pensez et le pratiquez, il y a quelque chose dedans d'une pensée tactile.
Exactement. Je pense que peut-être pour reprendre aussi ce que vous disiez au début sur des pensées, oui. Avec le trait d'union, finalement, on s'éloignerait d'une intellectualité pour aller vers une pensée manuelle. D'ailleurs, on n'est pas si loin d'Aristote, parce qu'Aristote, dans un texte fondamental, dit que ce qui rend l'homme intelligent sont ses mains. C'est pas le cerveau, ce sont les mains qui nous ont fait ce que nous sommes. Donc c'est aussi renouer avec ce qui nous constitue fondamentalement comme des humains intelligents.
Et d'ailleurs, pour reprendre Eric Sarner, à qui je vais redonner la parole tout à l'heure, il le disait bien, on n'a jamais, quoi qu'on écrive, et encore moins de la poésie, la maîtrise a priori de ce qu'on écrit, et c'est la main qui finalement guide le mot, et c'est finalement ce que la main trace que la pensée, après laquelle court la pensée, en vérité.
Exactement, je pense vraiment que la pensée ne préexiste pas au poème, en fait.
Elle ne préexiste pas
au poème, et on, voilà, le poème se pense avec les mots, mais il n'y a pas d'antériorité de la pensée au poème.
La main reprend le mot, en fait, reprend la main. La main reprend la main, voilà.
Exactement, Eric, la main reprend Eric la main, Sarnet, je passe la parole.
Et Jacques Darras aussi, évidemment, qui avait tout à l'heure... un exposé remarquable et qu'il n'avait pas terminé. Je ne vais pas laisser la parole jusqu'au bout, je m'en veux. Éric et ensuite Jacques.
Oui, je pensais à la suite d'Aurélie à une citation de Miguel de Unamuno, pour rester en Espagne avec Maria Zambrano, qui dit « La pensée ressent, le sentiment pense », qui unit beaucoup de choses de ce que nous sommes en train de dire. La pensée ressent, le sentiment pense. Alors tout à l'heure, Didier, vous disiez, vous me citiez gentiment en parlant de la pensée, en disant « la pensée occupe toute ma tête ». C'était à l'occasion d'un recueil. Et alors là, peut-être, là j'improvise totalement par rapport à ce que j'ai fait à ce moment-là, il y a quelques années. J'avais fait l'expérience premier degré, c'est-à-dire pas pour écrire, mais pour aller mieux. Je m'étais imposé une semaine de silence. Et j'avais donc très concrètement scotché mon téléphone pour ne pas avoir le réflexe d'aller le décrocher. Dans la rue, si je rencontrais quelqu'un que je connaissais, je montrais ma gorge en disant « je ne peux pas parler » et ainsi de suite. Au restaurant, je montrais le plat, etc. Et effectivement, 6 mois plus tard, alors que je n'y avais pas pensé, 6 mois plus tard, Et j'avais pris des notes, évidemment. J'ai pris des notes, mais j'ai pris des notes comme on tient un journal ou quelque chose comme ça. Et 6 mois plus tard, donc, je me suis dit, mais ça peut faire un recueil. C'est une chose qui peut déboucher sur un écrit. Et j'ai appelé ça carnet de silence. Et au milieu de ce recueil, je ne sais pas si j'avais écrit ça à l'époque du silence ou plus tard, mais effectivement, à un moment, je me suis dit, pensée occupe toute ma tête parce que je ne peux pas parler. Je me suis interdit de parler. Donc, voilà, je n'en tire aucune conclusion philosophique ou quoi, mais je livre cette expérience, car c'est de l'ordre de l'expérience au plus beau sens du terme, je trouve. Se mettre à l'épreuve, quoi. Voilà.
Jacques Darras.
Je ne me satisfais pas de ce non-savoir auquel vous, vous prétendez. Je pense, pour moi, bien évidemment, que le savoir est indispensable à la poésie, non seulement un savoir prosodique, non seulement un savoir technique et rhétorique. La poésie est tout sauf du spontané. Il n'y a pas de spontanéité de la pensée poétique. C'est un métier, c'est un travail. C'est long de devenir poète. Et donc, on est poète avec le savoir des autres. C'est-à-dire, moi, je suis poète avec la science, avec l'astrophysique, avec la physique, avec l'histoire, et en particulier parce que m'intéresse la longue durée. Je trouve que mon axe personnel dans le poème, c'est le temps cosmique comme le temps rythmique. Et par conséquent, je retravaille, je redéfinis la notion de temps long qui est conjoint à celui de l'épopée, et je redéfinis la grande multiplicité prosodique qu'il y a à notre disposition, qui sont nos outils. Et donc, conjoignant les deux, le temps long de l'histoire ou le temps long du cosmos avec le temps bref, rythmé, du rythme prosodique, je dis, et ce sera une forme de conclusion, je dis, le poème pense et danse. La poésie, pour moi, c'est la danse de la pensée dans les choses. Et je terminerai en retournant Platon contre lui-même, et en le citant en grec pour faire chic, «Kouphonti ô poietes», chose légère que le poète, d'autant plus, ajouterai-je, dans un monde de brutes sanguinaires.
Alors, évidemment, le défi est placé très haut, donc je vais prendre un allié substantiel pour essayer de poursuivre le débat avec Jacques Darras, qui malheureusement n'est plus là, c'est Michel Deguy. C'est l'occasion de lui rendre hommage, évidemment. Et Michel Deguy disait « Un poème ne s'achève dans aucun savoir. » Et il continuait en disant « La poésie est pensive. » Et donc, la question que je vous pose, Jacques Darras, mais que je pose aussi à Éric Sarner et à Aurélie Folia, ce non-savoir qu'on a évoqué, nous avons été plusieurs à l'évoquer, c'est évidemment pas le contraire d'un savoir. C'est pas une ode à l'ignorance et encore moins un refus de savoir. Quand on parle d'un non-savoir, c'est une forme de savoir. Un savoir peut être non fini, un savoir peut être non technique, un savoir peut être non thématisé, aurait dit Lévinas, ou non thématisable, et qui serait accordé à la parole poétique. Est-ce qu'on peut imaginer, mais on peut aussi ne pas l'imaginer, un savoir qu'on appellera ou non non-savoir, peu importe, et qui soit accordé à la parole poétique et au silence de la poésie?
Mais je sais très bien que nous obéissons ou nous sommes liés les uns et les autres à des esthétiques différentes, c'est-à-dire des sensibilités, mais aussi des appréciations différentes de la réalité et de la pensée sur la réalité. Personnellement, je suis marqué par le début du XXe siècle, à savoir des gens comme Sandrars, Claudel, Apollinaire, bien évidemment. Et j'ai hérité d'eux ce que j'appellerais, je me suis forgé cette notion-là au bout d'un long moment de passage à travers les savoirs, une érudition du réel. Je me considère comme une sorte d'érudit du réel. Érudit imparfait, certes. Mais je crois que le poète, pour moi, prend son bien partout où il est. Rien n'est interdit au poète. Tout est objet de poème, tout est objet de poésie. Et dans ce domaine-là, je crois que j'ai pris beaucoup plus de leçons de la poésie américaine ou de la poésie britannique, qui fait poème de tout, que de la poésie française qui est toujours d'essence mallarméenne. Même lorsque, mais oui, même lorsque quelqu'un comme Badiou, dans ce très beau livre qui s'appelle « Que pense le poème ?», qui consonne avec la formulation que vous avez choisie,
tout à fait,
publié en 2016 aux éditions Nous, qui sont quelques pas d'ici, effectivement. Même Badiou, qui a ce mérite extraordinaire de réconcilier la philosophie avec la poésie, et qui dit « j'accueille le poème », alors que c'est un platonicien, mais un platonicien tempéré, et je le mets en face de ce qu'il appelle les sciences, et qu'il appelle le mathème. Il y a le poème et le mathème. Mais la conclusion qu'il en tire, c'est que finalement le poème ne peut dire rien d'autre que notre impuissance à dire le réel, dit-il dans un monde post-hégélien. Là, personnellement, très joyeusement, je dis non. Pour moi, le monde est ouvert, le cosmos est ouvert, nous vivons et nous le pensons à peine, nous le sentons à peine, dans un monde où l'espace-temps bouleverse tout. Il y a très peu d'espace-temps dans la poésie. Je peux concevoir que des poètes sidérés par tant d'abîmes qui s'ouvrent sous nos pas, à savoir l'univers dans son expansion et dans sa complexité scientifique, se réfugient, se retirent du monde comme à l'armée pour, en quelque sorte, penser le non-savoir. Mais ça n'est pas mon sentiment à moi. Je pense que la poésie a une faculté d'exploration du réel qui est considérablement sous-estimée et d'une certaine manière, et vous allez me prendre pour la vanité incarnée, je la remets en marche.
Non, non, on ne conteste pas et au contraire, on l'admire parce qu'on vous lit, donc on le sait. Et on sait que ce que vous dites est évidemment corroboré par vos livres et par l'expérience. Aurélie Foglia, vous êtes universitaire aussi, donc vous avez une voix seconde aussi pour participer au débat et enrichir en quelque sorte de vos connaissances aussi sur le 19e et le 20e pour répondre oui. directement à Jacques Barras.
Et je vais faire un petit retour en arrière, un petit mouvement orphique
ouais.
encore.
Ouais, ouais.
Justement, sur cette idée magnifique de poésie pensive, je vous réponds, méditation poétique. Ce qu'on voit avec Lamartine, dont j'ai l'honneur d'être une spécialiste, ayant fait ma thèse sur Lamartine, c'est une révolution de la poésie, tout simplement. Je pense qu'on l'a beaucoup sous-estimée, elle a été plus ou moins enfouie sous les siècles. Mais Lamartine, avec les méditations poétiques, il fait quoi ? Il dit qu'il ne veut pas de la poésie technique, mondaine, froide du XVIIIe siècle. Il n'en hérite pas, il n'en veut pas. Enfin, il en hérite formellement, il écrit toujours en alexandrin, parce que ça lui est naturel, parce qu'on écrit de la poésie comme ça à l'époque. Mais ce qu'il veut, lui, c'est autre chose. Il veut faire revenir la vie dans la poésie, il veut justement un parti pris d'ignorance, qu'on va retrouver peut-être aussi beaucoup plus tard chez Philippe Jacotet, entre autres. Mais ce parti pris d'ignorance, il est fondamental à ce qu'il appelle la méditation. La méditation comme exercice spirituel, qui est aussi une façon de s'éprouver soi-même. Donc il y a quelque chose presque, j'allais dire de cartésien, mais c'est provocateur, d'être à un moment en train de se dire qu'est-ce que je fais quand je pense et quand j'écris. Et donc lui, c'est ça, il écrit de la poésie avec des nuages en quelque sorte. Le nuage qu'on retrouve chez Baudelaire après, qui est de l'informe. Et si je dis cela, c'est pas du tout pour dériver, mais parce qu'il me semble que dans la poésie, il y a une part de désapprentissage qui est peut-être aussi importante que la part d'apprentissage. Et je le vois en atelier d'écriture aussi, parce que j'aime énormément animer des ateliers d'écriture. Et il me semble qu'à certains moments, on a besoin de perdre la poésie pour arriver à en écrire peut-être de façon plus authentique. Je l'ai vu récemment avec une étudiante qui pensait que la poésie, c'était la rime. Et donc, elle s'enfermait dans un carcan de rimes qui l'empêchait totalement d'accéder à sa propre voix, à sa propre écriture. Et une fois qu'elle s'est dit « Ah, mais en fait, je peux écrire de la poésie en prose, ça existe. une fois qu'elle s'est dit, tiens, du vers libre, pourquoi pas, j'ai le droit, ah bon. Voilà, elle s'est retrouvée confrontée à une liberté qui était peut-être une difficile liberté, comme dit Lévinas, mais en tout cas, elle avait toute cette poésie remise en mouvement. Donc je pense que notre chance, à notre époque, c'est cette indéfinition même de la poésie qui nous permet de la perdre et peut-être de la trouver et de, peut-être de nous y trouver aussi. Donc voilà, il faut faire avec, mais... voilà, c'est ce parti pris d'ignorance, peut-être que je le situerais à ce niveau-là.
Une toute dernière question qui sera peut-être une affirmation pour Éric Sarner, mais Aurélie Foglia et Jacques Darras auront le droit aussi de dire un mot, parce que à 4 heures, il y a à 5 heures la suite de la méditation. Je vous livre ça comme ça, je n'en dirai pas l'auteur, c'est une citation. Si le poème pense, il parle. Ok ou pas ok, Eric?
Oui. ok. Et je voudrais prolonger, je voudrais me partir dans le sillage de ce que disait Jacques. Et tout d'un coup, en écoutant Aurélie aussi, j'ai repensé à Sénaque, Jean Sénaque, dont nous parlions.
On avait dit qu'on en parlerait.
dont nous parlions ensemble. Et effectivement, là, il y a quand même, il y a une poésie engagée du côté de Sénaque, une poésie qui même est tellement engagée qu'elle va vraiment très très loin. Je cite quelque chose, si je cite deux vers, tu es belle comme un comité de gestion, qui donc fait partie de l'œuvre de Sénaque, et en même temps une implication. Il est dans la vie, alors il est dans la vie politique, il est dans la vie la plus émotionnelle possible.
On rappelle en une seconde, combattant de la guerre d'Algérie, évidemment. Hein,
combattant dans le verbe de la guerre d'Algérie. Et... voilà, je pensais à lui parce que il est totalement dans la vie. Et moi, je suis absolument persuadé que poésie-vie, ça va ensemble. Et ça se colle complètement.
Aurélie Foglia.
Pour conclure, en fait, sur cette formule, si le poème pense, il parle. Mais je dirais, si le poème pense, il parle, mais avec beaucoup de silence.
On termine sur le silence, sauf que je viens de parler. Merci infiniment à tous. Très bon après-midi. Merci beaucoup.
Merci Aurélie, merci Eric, merci Jacques et merci Didier. Dans quelques secondes, le temps de remettre un petit peu d'ordre sur la scène, nous allons recevoir nos amis des Pays-Bas. Anne Wechter, qui sera présentée par Margot Dischgraf.